Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 16 juillet 2021. L'actualité, c'est l'Afghanistan où le retrait des troupes américaines s'accélère et selon les déclarations du Taliban, 85% du territoire afghan sont désormais sous leur contrôle. Dans ce contexte, le trio Iran, Russie, Chine s'est activé, notamment dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le sens de la conclusion d'un accord de réconciliation nationale en Afghanistan. Et dans ce contexte, le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé les talibans à assumer pleinement leurs responsabilités envers l'Afghanistan et son avenir. La République islamique d'Iran, membre observateur de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est en passe de devenir membre à part entière, lui aussi, s'est activé, en effet, discute activement avec les acteurs afghans et au cours de la semaine dernière, au moins quatre délégations se sont rendues à Téhéran pour discuter de la situation en Afghanistan. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur la situation en Afghanistan, mais aussi et surtout le rôle de la République islamique d'Iran, de la Russie et de la Chine pour trouver une solution politique et diplomatique à la crise en Afghanistan. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
De plus en plus, le retrait US d'Afghanistan prend l'allure d'une ruse de guerre destinée à déstabiliser par guerre civile interposée les frontières des trois pays que sont l'Iran, la Russie et la Chine. Mais il se peut qu'avec le retrait des forces américaines, la Chine mette, prévoit le journal turc Daily Sabah, en œuvre ses plans concernant l'Afghanistan et tire royalement le tapis sous les pieds US. En effet, bien avant le départ des forces américaines d'Afghanistan, après près de deux décennies, la Chine, qui surveille tranquillement la situation en Afghanistan depuis des années en vue d'établir une position stratégique dans le pays, a eu des entretiens informels avec des hommes politiques afghans et des talibans. En effet, le retrait des États-Unis et de l'OTAN a laissé la porte ouverte à la Chine pour tenter de devenir le nouveau joueur du grand jeu. Cela rappelle l'époque où les empires britanniques et russes étaient enfermés dans une confrontation politique et diplomatique visant à gagner du pouvoir et de l'influence sur l'Afghanistan et les territoires voisins d'Asie centrale et du Sud. Et le journal d'ajouter, les États-Unis ont pénétré en Afghanistan pour éradiquer le groupe terroriste Al-Qaïda et les talibans. Mais ils ont fini par se rendre à l'évidence, impossible de gagner la guerre à défaut d'un objectif géostratégique précis, car contre la Chine, l'Iran ou la Russie n'est guère une finalité en soi mais une tactique. Or, c'est tout autre la perspective chinoise. Pour la Chine, l'Afghanistan est une étape importante dans son initiative de la nouvelle route de la soie, qui vise à renforcer son ancrage dans l'Asie centrale voisine et à étendre sa portée vers l'Europe par rail, route et mer. Avec le départ des troupes américaines et d'autres troupes occidentales, les hommes politiques afghans se sont également entre-temps inclinés vers la Chine. En effet, le président afghan Ashraf Ghani, qui par respect pour les sensibilités américaines était par le passé réticent à discuter du projet avec les Chinois, devrait désormais s'entretenir avec Pékin après le retrait américain. Faire signer un accord de paix aux talibans pourrait être un bon début pour la Chine, mais comment être sûr qu'un taliban aux commandes tiendra parole? Comment la Chine peut-elle s'assurer que les talibans ne chasseront pas un jour les Chinois d'Afghanistan, se demande le journal, sans aller jusqu'à se demander la même question à une Turquie qui s'apprête à prendre, à l'instigation US, le contrôle de l'aéroport de Kaboul, façon de servir, comme toujours, de paravent, aux activités de renseignement et secrètes US, une fois le pseudo-retrait US achevé. Le sultan Erdogan a-t-il aussi pour mission d'en découdre avec la Chine en Afghanistan?
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, et depuis Bruxelles, M. Luc Michel, géopoliticien. M. Michel, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et bonjour surtout à mon collègue le professeur Tortillier. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Vous savez, ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est ce qu'on peut appeler un boomerang géopolitique. Les guerres d'Afghanistan ont commencé au début des années 1980. À l'époque, le géopoliticien américain Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier, avait attiré les Soviétiques dans un piège. Ils avaient transformé le Vietnam, l'Afghanistan en Vietnam de l'Union soviétique et le départ des Soviétiques d'Afghanistan avait entraîné la dislocation de l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous sommes 40 ans après et nous devons constater que les Américains se sont laissés prendre à leur propre piège. Non seulement ils quittent l'Afghanistan sans gloire en laissant un champ de ruines, et je partage votre analyse, c'est un piège pour les Afghans, mais surtout les pays voisins qu'on avait maladroitement tenté d'évincer, c'est-à-dire les Russes et les Chinois maintenant, qui sont leur arrivée et leur retour en Afghanistan. Pour la Chine, c'est très important parce que jusqu'à Xi Jinping, la Chine n'avait pas de géopolitique internationale. Elle s'intéressait uniquement à ce qui était la géopolitique traditionnelle de l'Empire chinois, l'étranger proche, c'est-à-dire la mer de Chine, l'Indonésie et l'Indochine. À partir de Xi Jinping, les Chinois développent une géopolitique mondiale avec leur fameuse route de la soie vers l'Europe occidentale et l'Eurasie, mais aussi vers l'Afrique. Et donc leur nouvel intérêt pour l'Afghanistan, il marque cette arrivée des Chinois. C'est une défaite géopolitique pour les Américains.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Claude Abandé, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à notre ami Monsieur Luc Michel.
Monsieur le professeur, et pour vous, que représente la situation en Afghanistan? Quel constat tirez-vous de ce qui se passe actuellement en Afghanistan avec le retrait des troupes américaines? D'abord, est-ce que là, il s'agit d'un vrai retrait ou bien, comme l'a fait remarquer M. Michel, il s'agit d'un piège, non seulement pour les Afghans, mais aussi pour les pays voisins de l'Afghanistan? Et puis, par la suite, justement, à quel scénario faudrait-il s'attendre au vu de l'évolution de la situation?
Il s'agit, monsieur, qu'on a demandé pratiquement d'une ruse américaine. On peut dire que les Américains quittent l'Afghanistan par la porte et font rentrer les talibans par la fenêtre. Je crois que c'était peut-être pas, disons, une description complète de la situation, mais bien sûr, disons, la direction, certainement la signification que prend la méditation, disons, je reprends un mot encore, de ce départ. En réalité, il s'agit d'une stratégie qui est minutieusement suivie. Et je dois dire que pour donner de la vraisemblance à mon propos, je citerai la position officielle du gouvernement britannique, celle du gouvernement de Sa Majesté, qui dit qu'il acceptera les talibans à condition qu'il respecte les droits de l'homme. Cela signifie en clair, eh bien écoutez, messieurs, rentrez et continuez ce pourquoi nous vous avons mobilisé dans les années, au début des années 80, c'est-à-dire entretenir un feu de discorde qui justifie justement une intervention extérieure, ce qui s'est passé avec l'intervention américaine, mais surtout empêche toute stabilisation dans la région et en particulier, entretiennent un feu de guerre civile, de lutte civile aux portes de l'Iran, et bien sûr permettent par la suite aux forces occidentales de réintervenir. Mais je crois que cette présence des Afghans, des talibans, répond en effet à une stratégie, disons, américaine, et qui bien sûr voit avec... un certain malaise, mais sans plus, le développement de la Chine, essayer de le contrôler, essayer, disons, d'adopter notre attitude. Mais je crois que ce qui est visé, comme ce qui avait été visé autrefois, même par la politique soviétique vieillissante, qui avait renversé le gouvernement local et introduit un gouvernement communiste, ce qui est absurde, évidemment, dans un régime qui est un régime musulman. Il s'agissait de briser l'Afghanistan, il s'agissait, disons, d'en faire un foyer d'instabilité permanente. C'est cela qui nous fait peur, et je n'ai aucune confiance, bien sûr, dans ces nouveaux dirigeants. Je crois que, ici, la presse, par exemple, présente l'opposition aux talibans comme celle de chefs de guerre. Bon, c'est une manière, disons, d'orienter l'opinion, de neutraliser toute crainte devant les talibans et de faire accepter, disons, cette nouvelle situation. En tout cas, cela démontre que le départ américain était finalement une farce. C'est-à-dire, je vous dis, c'est une ruse. Et je crois que, effectivement, comme l'a dit votre commentatrice et puis comme l'a dit M. Michel, évidemment, tout ceci va entraîner et développer deux réactions. Une première réaction, c'est celle d'un conflit et d'une permanente, disons, entre les Occidentaux, entre guillemets, la Chine et la Russie, bien sûr. Et ensuite, dans un deuxième temps, permettra d'utiliser, entraînera aussi un resserrement, certainement, des liens politiques de l'Iran avec, par la coopération de Shanghai, etc., avec la Chine. Laquelle Chine était présente économiquement, je le signale, en Afghanistan. Il y a toujours une exploitation de minerais, je crois, qui a duré pendant toute la guerre, l'ancienne guerre et jusqu'à aujourd'hui. Mais disons qu'il est fatal que la Chine, disons, sorte d'une sorte de centrage, si je puis dire, sur elle-même, et développe une géopolitique, bien sûr, en fonction de ce foyer de troubles, car je ne trouve pas d'autres qualifications, ce foyer de troubles qui est appelé à devenir l'Afghanistan de par justement la stratégie que je dirais anglo-américaine.
Merci infiniment pour ces précisions, monsieur le professeur, restez avec nous. Monsieur Michel, alors les Américains, après 20 ans de guerre pour rien en Afghanistan, ont décidé délibérément, semble-t-il, de faire perdurer en effet la crise en Afghanistan, et même dans la région de l'Asie centrale. Ceci étant dit, alors quelle sera la responsabilité justement des voisins de l'Afghanistan, mais aussi des pays protagonistes dans la géopolitique de la région, et y compris l'alliance, l'Iran, la Chine et la Russie, pour, dans le sens de la conclusion d'un accord de réconciliation en Afghanistan.
Écoutez, il y a plusieurs remarques qui sont à faire, mais tout d'abord, ce n'est pas 20 ans de guerre qui se terminent, c'est 40 ans de guerre. Et je ne partage pas l'avis du professeur Dortiguer. La Russie, l'Union soviétique était légitime à l'époque à intervenir en Afghanistan. C'était un des buts géopolitiques de la Russie depuis le grand jeu du 19e siècle contre l'Empire britannique. C'était l'accès aux mers chaudes, ce qui suppose le contrôle de l'Afghanistan. Les Américains ont tenté une stratégie. Tout d'abord, il y a eu l'erreur stratégique de la Chine, qui n'est pas renouvelée aujourd'hui. Nous sommes dans une autre ère géopolitique. Vous savez qu'en 1972, Kissinger et Nixon étaient allés à Pékin et Mao s'était allié aux Américains contre les Soviétiques. C'est ce qui explique leur défaite en Afghanistan dans les années 80. Et ça a été une erreur mortelle pour la Chine, puisque ça s'est terminé par la tentative de changement de régime pro-américain de Tiananmen. Ça a été ça le merci de la Chine. La Chine maintenant a compris qu'elle doit s'adosser à la fois sur la Russie, dans une alliance géopolitique dos à dos, les deux partenaires n'ont pas de contentieux et de rivalité, mais au contraire des projets communs, mais également dans une alliance géopolitique dos à dos avec la République islamique d'Iran. Le Rabi en marche qui reprend la main sur l'Afghanistan, elle est constituée par un axe Moscou, Pékin et Téhéran, comme le démontre d'ailleurs la prochaine entrée soutenue par les Russes de Téhéran dans l'organisation de coopération de Shanghai à part entière et non plus comme observateur. Et les Américains, c'est pour cela qu'ils laissent un champ de ruines en Afghanistan. C'est surtout l'échec d'une stratégie. Partout, les Américains ont été des pompiers pyromanes, mais c'est en Afghanistan qu'ils ont commencé leur stratégie de l'utilisation de ceux que vous appelez les Tahkiristes et que nous appelons en Europe les djihadistes. C'était l'époque où Ben Laden, au service des Saoudiens, des Pakistanais et des Américains, travaillaient pour la CIA. Ensuite, les Américains ont continué en amenant au pouvoir les talibans. Les talibans, c'est une construction des Américains et des Pakistanais. Ils ont construit leur propre ennemi. Ils ont construit le monstre qui les a dévorés en Afghanistan. Depuis 5 ans, ils négocient avec les talibans qu'ils ont prétendu chasser du pouvoir. Et partout dans le monde, au Proche-Orient ou en Afrique, la technique d'utiliser les djihadistes ou les tahkiristes contre les ennemis de l'Amérique, elle s'est révélée un piège géopolitique pour les Occidentaux, comme le prouve l'échec de la France dans la guerre du Sahel ou encore l'échec des Américains dans la Corne de l'Afrique. C'est cela qu'il faut constater. Maintenant, les conditions géopolitiques, ce ne sont plus celles des années 1980. Les Russes ne sont plus seuls, ils sont alliés à la fois aux Iraniens et à la fois surtout ici aux Chinois. Et donc c'est l'alliance de l'Eurasie qui va tenter de reprendre la main sur l'Afghanistan. Quels sont les plans américains? C'est comme dans le Sahel, le faux départ. On dit qu'on part par la grande porte, mais on rentre par la fenêtre. Il y a deux plans qui sont actuellement proposés à l'Afghanistan par les Américains. Tout d'abord, c'est la privatisation de la guerre. C'est le plan qui est proposé par le patron de Blackwater, Eric Prince, qui a été conseiller de Donald Trump et aujourd'hui qui est un des conseillers occultes parce que les Américains en ont honte de Joe Biden. Il s'agit de remplacer les armées occidentales par ce qu'ils appellent les contractuels. Le modèle, c'est la conquête des Indes au 19e siècle par la Compagnie des Indes britanniques. Les Indes n'ont pas été conquises par l'armée britannique, mais par les mercenaires de la Compagnie des Indes. C'est sur cela qu'Eric Prince fait son plan. Le deuxième plan, évidemment, c'est de remplacer par un certain nombre de pays de l'OTAN. Certains s'apprêtent à quitter l'Afghanistan, mais d'autres y arrivent, les Turcs. Les Turcs, considérés comme un pays musulman et parrain, justement, des djihadistes et des tahkiristes, sont un partenaire acceptable pour les talibans. C'est aux Turcs que les Américains proposent de remettre l'aéroport de Kaboul et de donc conserver une base essentielle pour l'activité de leurs services secrets dans la région. Dernier élément qui est divergent des années 80, jusqu'il y a 2 ou 3 ans, le grand partenaire des Américains, c'était les Wahhabites de l'armée pakistanaise. Mais aujourd'hui, l'armée pakistanaise est en train de se détourner de l'Amérique. Elle est en train de se tourner vers l'armée russe et l'armée chinoise et vers l'unification de l'Eurasie en masse. C'est tous ces paramètres géopolitiques qui font qu'aujourd'hui, contrairement aux années 1980, où l'Union soviétique était en position de faiblesse, aujourd'hui, l'alliance eurasiatique de Moscou, de Pékin, de Téhéran, elle est en position de force pour déjouer les plans américains.
Merci, merci encore, Monsieur Michel. Une toute dernière question à Monsieur le professeur Dordiguier. Monsieur le professeur, Monsieur Michel a rappelé les conditions géopolitiques, justement, aujourd'hui, ont changé. Et qu'on le veuille ou non, bien sûr, avec ce faux départ des Américains, ce piège, ce complot qu'ils ont en effet tramé, non seulement pour l'Afghanistan, mais aussi pour les pays voisins de l'Afghanistan, pour les pays, pour l'axe de l'Eurasie, en effet, un nouveau chapitre s'ouvre en Afghanistan et dans la région. Monsieur Michel l'a rappelé, bien sûr, aujourd'hui, l'axe Iran-Russie-Chine est en position de force pour déjouer les plans américains dans la région. Et justement, sur ce point, avec ce nouveau foyer d'instabilité, que va-t-il se passer, justement, dans la région et en Afghanistan? En d'autres termes, quels seront les plans, les projets, les mesures pratiques que cet axe devrait mettre en œuvre pour justement parvenir à déjouer les projets américains dans la région en général, dans la région de l'Asie centrale, de l'Eurasie et en Afghanistan en particulier?
Eh bien, en arrière-plan, comme l'a dit très bien M. Michel, il y a cette alliance que les Américains avaient voulu briser à l'époque de Nixon, donc l'affermissement de l'alliance entre la Chine et la Russie, ça je crois que c'est le grand échec américain, bien sûr, et ceci, bien sûr, donne plus de confiance à l'Iran, par exemple, de trouver, disons, une sorte d'appui, et de même à d'autres peuples, par exemple, ce que j'appellerais les peuples turciques, hein, c'est-à-dire que les Ouïghours, c'est-à-dire, qui ont été considérés par les, comme, disons, l'objet de, ou les Turkmènes, tout ça, qui sont impliqués dans cette guerre à l'intérieur même de l'Afghanistan et en dehors de l'Afghanistan, eh bien, je crois qu'ils eux-mêmes, disons, apaiseront leur conflit avec justement le sentiment qu'une sorte de communauté eurasiatique se forme. Ça, je crois que c'est quelque chose contre lequel les Américains ne peuvent pas lutter, mais ce que j'ai retenu de ce que dit M. Michel, je trouve que ce n'est pas dit souvent, c'est l'assimilation, l'analogie entre la politique américaine et la politique anglaise aux Indes, c'est-à-dire justement la formation de groupes privés, etc., d'armées particulières, pour pouvoir, disons, maintenir une sorte d'instabilité, un degré d'instabilité, mais à long terme. Et je crois que cette instabilité devra, disons, diminuer, et ceci non pas par des réflexes armés, mais par des initiatives politiques. Et là-dessus, on verra que la politique l'emporte justement sur les jeux de guerre. Je crois que cette politique eurasienne est une politique qui fait peur à l'économie occidentale telle que nous la connaissons, politique spéculative. Et je crois qu'il y aura, disons, un apaisement des conflits internes entre les peuples en Asie. Ça, c'est bien sûr la détermination américaine, ou entre guillemets, même si on met des guillemets américaines, est constante. C'est-à-dire de pratiquer une sorte de désordre, de perpétuer une sorte d'un minimum de désordre. Je crois que la seule réponse pratique là-dessus, c'est, je le redis, l'initiative politique. Et à l'ombre de cette politique, évidemment, peut se développer, se tisser des liens économiques et autres. Mais ce qu'on appelle le projet qui est pacifique, justement, de l'Eurasie, ne peut se produire que si il y a, disons, une conscience politique qui se développe et qui va à l'encontre de toutes les manipulations pseudo-religieuses, etc., que cultivent les Américains.
Merci infiniment. Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.